Nous allons maintenant être à l'écoute de la parole de Dieu. Je demande au Seigneur qu'il nous conduise maintenant, qu'il continue à transformer nos cœurs au travers de sa parole. Alors, je vais vous poser une question. Que ressentez-vous au sujet du retour de Christ ? La joie de l'espérance.
L'impatience.
Veiller et prier. Donc, tu es déjà dans l'application de... Il faut se préparer. Hein?
Témoigner.
Ok, il y a plusieurs choses là. C'est pas toujours... Les chrétiens ne sont pas toujours dans la joie et l'espérance. Hein. Il y en a qui sont dans le stress, ou plutôt dans l'anxiété, dans la peur. Certaines personnes vivent dans l'appréhension du retour de Christ. Tout leur paraît si étrange et si inquiétant. Et quand on lit l'Apocalypse, ça fait trembler, n'est-ce pas ? Souvent, le problème chez... je me rends compte que chez le chrétien, est de ne pas voir ce que cela implique, de savoir que Christ revient. Ok, il revient, mais maintenant on fait quoi ? Mon but ce matin est simple, et on l'a entendu tout de suite, c'est de nous aider à vivre dans la perspective de l'éternité avec joie. Le message du retour de Jésus-Christ, c'est l'espérance. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, où nous nous préparons pour la naissance, et Manu parle du retour de Christ. Hein? Manu, tu vas un peu vite là. Mais on a souhaité cela parce que, avec tous les événements qu'il y a en ce moment, et c'est pour nous un sujet qui nous paraît tellement important, de parler du retour de Jésus-Christ. J'aimerais que nos cœurs soient remplis d'espérance. Si vous ne ressentez pas de l'espérance après ce message ce matin, je serais passé à côté de l'essentiel. Regardez-vous un match de foot différemment lorsque vous l'avez enregistré et que vous connaissez déjà le résultat ? Non, hein ? Bon, c'est les hommes qui vont me répondre, hein, je crois. Si votre équipe préférée a gagné, vous ne redoutez pas le résultat. Vous vous réjouissez simplement de regarder de quelle manière la victoire a été remportée. En tant que chrétien, je peux vous dire que pour sûr que notre équipe a gagné. Nous regardons en fait simplement la victoire de Dieu se dérouler sous nos yeux. Ok, plein de choses terribles qui se passent, mais Dieu est en train d'agir malgré tout. Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, et il revient pour rétablir toutes choses. C'est une vérité qui, normalement, doit continuer à nous bouleverser, à bouleverser notre vie quotidienne. Notre attitude est essentielle lorsque nous abordons le retour de Christ. La Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, est très claire à propos de l'attitude nécessaire à la pleine compréhension de ce que Dieu révèle sur les derniers temps. Nous ne devons pas avoir une attitude d'appréhension, mais une attitude d'adoration. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ et nous serons remplis d'espérance devant les vérités du retour de Jésus-Christ. Voyons ce matin rapidement quelques points sur le retour de Christ et ensuite nous finirons par voir ce que cela implique dans notre vie quotidienne. La grande difficulté pour moi ce matin, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. Il faudrait vraiment plusieurs dimanches pour vraiment prendre le temps de voir ce que cela signifie. Donc je suis très, très insatisfait, parce que j'aimerais en dire plus, et mes pages sont beaucoup plus longues que ce que je vais vous donner ce matin. Mais voilà, que le Seigneur nous conduise maintenant pour comprendre et surtout saisir comment nous pouvons être dans cette attente de ce retour. J'aimerais parler des signes, commencer par les signes. Les signes du retour de Christ. Premièrement, les signes indiquant la fin. Dans Marc chapitre 13, versets 5 à 8, Jésus a dit ceci, « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler. Car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ici, on entend plusieurs choses. Il fait mention des faux Christ, ceux qui proclament être le Messie. Il est étonnant de voir que dans chaque génération, il y a eu des gens qui disent, qui se proclament être eux-mêmes Jésus. Et dans chaque génération, des gens ont été bernés par leurs mensonges. Il y a les guerres, pas besoin de dire grand-chose là-dessus, les tremblements de terre, les famines, tous ces signes sont déjà présents, n'est-ce pas ? Ces signes qui indiquent la fin, en fait, se cumuleront tous à la fin des temps. L'avertissement de Jésus au sujet de ces signes, ne vous laissez pas tromper. Les gens font très facilement des prédictions sur l'avenir. Tellement de gens aiment l'horoscope, tout ça, tout ce qui peut leur permettre de connaître l'avenir. Nous sommes friands de ces choses-là, nous avons besoin de savoir ce qui va arriver demain. Mais attention, ne nous laissons pas tromper. Les faux enseignants qui peuvent prêcher Jésus-Christ, hein, l'évangile, mais il y a toujours une chose ou deux qui font que ce n'est pas l'évangile. Et ces faux enseignants font appel à notre orgueil en nous disant que nous pouvons connaître quelque chose que tout le monde ignore. Je connais la date du retour de Christ. J'ai fait des études énormes, écoutez-moi. Ne nous laissons pas tromper. L'avenir terrifie beaucoup d'entre nous. Nous aimerions bien que quelqu'un nous dise qu'il a tout compris. Mais cela n'existera jamais, les amis. Même les plus grands théologiens évangéliques sont très sages sur ces questions et font très attention à ce qu'ils disent. Et je crois que c'est ainsi qu'il nous faut faire. Ne nous laissons pas tromper. Les signes précédant la fin. Deuxième point. Il y a la persécution. Matthieu 24, verset 9. On vous persécutera et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. La persécution va provoquer ce qui suit. On appelle cela l'apostasie, qui est l'abandon de Dieu, de la foi. On verra des gens soi-disant chrétiens, mais qui vont abandonner Dieu, abandonner la foi. Matthieu chapitre 24, verset 10. Beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Horrible, horrible, terrible. Ensuite, il y a des moqueurs qui viendront. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs, ils tourneront votre foi en ridicule. » Et encore, un autre point, la montée du mal individuel. Marc chapitre 13, verset 12, c'est horrible ce qui est écrit là. « Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. » C'est horrible. Autre point, de nombreux faux prophètes. Matthieu 24, verset 11, « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. » Ils vont dire des bêtises, on dit « Oh, c'est des faux prophètes. » Et on a l'impression que tout va bien. Non, ils vont tromper beaucoup de gens. Donc, ils vont avoir beaucoup de succès, ces gars-là. Encore une fois, ce qui s'est produit tout au long de l'histoire sera amplifié à la fin des temps. Il y a aussi les signes accompagnant la fin. Ces signes sont très dramatiques. Déjà ceux d'avant, mais ceux-là sont... Si on n'a pas compris que c'est la fin, quand ils arrivent, ces signes-là, je ne sais pas. Hein. Des signes au niveau du soleil, de la lune, des étoiles. Waouh ! Luc chapitre 21, verset 25. « Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Il y a aussi le grondement de la mer, les puissances célestes secouées. Luc 21, sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur. Mourront de peur ? Ah là, c'est pas une petite peur, là. Dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Autre point, une grande détresse. Matthieu 24, à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Voilà des signes terribles que nous voyons déjà un peu aujourd'hui, mais qui vont s'amplifier. Parlons maintenant du retour de Christ. Le moment du retour de Christ. Le moment du retour de Christ est bientôt. Apocalypse 22, verset 16, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. » Tout enseignement prophétique qui enlève ce mot « bientôt » lié à la venue de Jésus néglige ces paroles du texte que je viens de lire dans Apocalypse 22. Mais quand on entend cela, il y en a qui rigolent, n'est-ce pas ? Comment Jésus pourrait-il venir bientôt alors que ces paroles ont été écrites il y a environ 2000 ans, n'est-ce pas ? Ça fait un peu beaucoup, là. Comprenez-le de la manière suivante. Le mot « bientôt » utilisé ici ne signifie pas tellement « cette année » ou « aujourd'hui » ou même « dans l'heure qui suit ». Il signifie « à tout moment ». Pendant 2000 ans, le monde a vécu dans l'attente du retour imminent de Jésus. C'est comme regarder un immense rocher, vous voyez, au bord d'une falaise. Il n'est pas encore tombé, ce rocher. Il se peut qu'il ne tombe pas aujourd'hui. Mais si vous le regardez bien, vous savez qu'il va tomber dans pas longtemps, quoi. Là, c'est imminent. Celui-là, la manière qu'il bouge là. Depuis 2000 ans, ce monde est sur le point d'assister au retour de Jésus. Le mot « bientôt » est chargé d'une connotation d'imminence. Non pas bientôt un de ces jours ou bientôt maintenant, mais c'est imminent. Le moment du retour de Christ n'est pas connu. Matthieu chapitre 24, verset 36, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les gens, les anges du ciel. » Nous, il y en a plusieurs qui essayent de connaître, mais ni les anges du ciel, ni même le Fils en personne. Ah ouais, je lis la Bible, hein. Sauf le Père, et lui seul. Et lui seul. Ah, c'est bien d'entendre cela, hein. Le moment du retour de Christ est inattendu. Inattendu. 1 Thessaloniciens 5, 2. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. L'image est bien donnée, là. Et elle nous aide à bien comprendre ce que cela signifie. Il est important que nous comprenions qu'inattendu ne veut pas dire effrayant. Parce qu'il y en a qui sont là, inattendu. Il n'est pas inattendu comme cela, hein. Christ ne vient pas pour nous faire peur. Coucou, je suis là. Non. Christ ne vient pas pour cela, il vient pour nous sauver. Les seules personnes qui peuvent être nerveuses concernant le retour de Christ sont celles qui ne se sont pas préparées à ce retour. Ce sont les personnes qui n'ont pas du tout donné une place dans leur cœur, dans leur vie, à Dieu lui-même. Voilà pour le moment. Et quand on parle de bientôt, il faut savoir qu'il y a tant de choses qui sont arrivées sur Terre, qui sont arrivées, ça a commencé, une chose est arrivée, puis après il y a comme une avalanche de situations. Dans l'histoire, j'en suis sûr, vous connaissez plusieurs histoires où il y a eu avalanche de situations. Le retour de Christ peut venir en l'espace d'une année, on peut voir les choses s'accélérer de manière extraordinaire. On ne peut pas se dire que ah, pour l'instant, c'est, il y a tous ces signes qu'on est censé voir et ça va prendre du temps. Non, ça peut aller tellement vite. Ça peut aller tellement vite. Parlons maintenant des caractéristiques du retour du Christ. Là, je vais survoler assez rapidement. Il y a ce fameux texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. En effet, au signe donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et quand on prend les plusieurs textes qui en parlent, voici ce qu'on peut résumer là. Jésus viendra sur les nuées, il sera visible, il aura un corps, donc il ne sera pas quelque chose d'informe qu'on va voir. Il viendra avec ses anges, il viendra dans sa gloire, il sera accompagné d'un grand bruit. Jésus viendra dans une gloire absolue. Juste à résumer rapidement les textes bibliques là, les gens qui disent « je suis le Christ », on peut les rironner, quoi. On peut rironner, parce que là, normalement, tout le monde va le voir. Voilà, difficile de ne pas se rendre compte que Christ est là, est en train d'arriver. Pourquoi Christ revient ? C'est une bonne question à poser. Voilà quelques points rapides ici. Pour mettre en lumière tout ce qui est caché, pour juger les vivants et les morts, pour remettre la royauté à Dieu le Père, pour qu'il règne sur le monde, pour être glorifié par les siens, pour sauver ceux qui attendent le salut, pour prendre les siens avec lui. Ceux qui n'ont pas voulu Dieu dans leur vie, qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés, ils iront au châtiment éternel. Dieu interviendra activement pour punir le péché, pour punir le mal. Ce lieu de châtiment est terrible. Et cela m'amène à dire, assurons-nous que notre nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que vous êtes en relation avec Dieu ? Est-ce que vous êtes de véritables enfants de Dieu ? Ou êtes-vous simplement des chrétiens du dimanche ? Est-ce que Dieu est vraiment, son esprit est en vous ? Avez-vous l'assurance que Dieu donne à ses enfants d'être sauvés, de lui appartenir ? Vivez-vous une relation avec Dieu tous les jours ? Est-ce qu'il y a changement de vie ? Est-ce que le péché dans votre vie a toute la place ou est-ce que c'est la sainteté de Dieu qui se manifeste ? Bien sûr, ce n'est pas sans lutte, mais normalement, il y a une progression en sainteté. Plein de questions là. Pour ceux qui, peut-être, n'ont pas placé leur foi en Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés, de tout le mal que vous auriez pu faire, le fait de vous être détourné de Dieu, le fait de vivre votre vie sans Dieu. Demandez-lui pardon. Reconnaissez votre péché. Reconnaissez votre besoin de Dieu. Venez à lui et placez votre foi dans Jésus-Christ, son sacrifice, sa mort, sa résurrection qui fait que vous pouvez enfin être pardonné et avoir une relation rétablie avec Dieu, votre Créateur, et jouir sans cesse de sa présence, jouir de sa famille et savoir qu'un jour il vous prendra avec lui. En trois mots, j'aimerais parler de notre bonheur qui nous attend. Trois choses, la disparition du mal, la ressemblance à Christ, la présence de Dieu. On pourrait dire beaucoup de choses. À chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas tout dire, ça serait long. Mais j'aimerais quand même afficher certaines choses là. Mais notre bonheur à nous, ce qui nous attend, c'est la disparition du mal. La ressemblance à Christ, c'est la présence de Dieu. Il ne se fera plus, ni mal, ni destruction. Le deuil, les pleurs, les cris disparaîtront. Tout ce qui oppresse les humains, qui les tourmente, qui les chagrine, les déçoit, sera définitivement balayé. La souffrance, les injustices seront radicalement guéries et ne seront plus qu'un souvenir. Ésaïe ose dire aussi qu'ils seront oubliés. Tous ceux qui seront auprès de Dieu ressembleront à Jésus-Christ. Nous serons saints comme lui est saint. Nous nous aimerons les uns les autres d'un amour parfait. Le fruit de l'esprit se manifestera dans toute sa totalité. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela. Pas besoin de l'exercer, les amis. J'essaye d'y arriver. Non, tout ça sera parfaitement en nous. Vous imaginez, mais c'est un bonheur immense qui nous attend. Et nous jouirons plus que sur cette terre de la présence de Dieu, de son intimité, d'une pleine connaissance de sa personne. L'infinie bonté de Dieu fera l'objet d'une exploration éternelle, tellement il y a à découvrir en lui. Il y aura tellement de choses à découvrir en Dieu, parce que Dieu est infini. Amen.
Amen.
Wow. Hey. Wow. C'est énorme. Soyons dans la joie. Réjouissons-nous. Les événements de la fin. Il serait bon de couvrir ces événements dans l'ordre. Il y a tellement de choses à dire. Et je les avais préparées pour ce matin, mais je ne pourrais pas les dire parce que c'est beaucoup trop long. Les chrétiens, en tout cas, ont du mal à se mettre d'accord concernant le déroulement chronologique des événements de la fin. Et donc, c'est une des choses qu'on pourrait voir une autre fois, mais j'aimerais maintenant m'arrêter sur quelle doit être notre attitude. Quelle doit être notre attitude? Premièrement, veiller et être vigilant. Marc chapitre 13, verset 33. Petit verset, Marc 13, 33. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Le mot veiller est souvent utilisé pour désigner l'attitude que nous devons avoir face au retour de Christ. S'il y a bien un mot qui doit ressortir quand on parle du retour, c'est veiller. Ne vous êtes-vous jamais assoupi quelques secondes au volant de votre voiture ? Je suis le seul. Soudain ramené à vos sens par la lumière d'une voiture venant en face. Bon, j'espère que ça n'arrive pas à plusieurs personnes, ce truc-là. Mais ça réveille, n'est-ce pas, hein? On se dit, oula, maintenant il faut que je sois plus vigilant. La vérité de la lumière approchant du retour de Christ devrait nous réveiller à la vraie vie et aux besoins criants qui nous entourent. Étant donné l'espérance que nous avons, nous devrions nous montrer plein de vie au milieu du monde qui marche endormi, n'ayant pas l'espérance que nous avons. Proclamons l'évangile, ça c'est clair, dans ce temps d'attente. Nous avons à veiller sur nous-mêmes. Le veiller commence par là. Veillons sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans la tentation, la paresse, la distraction. Veillons dans le sens de ne pas oublier qu'il revient. Et donc, préparons-nous. Exprimé positivement, nous pourrions dire, nous devons guetter le retour de Christ. Il est facile de nous assoupir au niveau de notre vie spirituelle. Et ça, je pense qu'il nous faut l'avouer. C'est l'avouer à soi-même que cela nous arrive à tous. Il est facile d'être satisfait ou de nous laisser... de rester dans une certaine médiocrité dans notre relation avec Dieu, de nous laisser aller et de peu à peu nous focaliser davantage sur les choses de ce monde, être davantage attaché aux choses de la terre plutôt qu'aux choses célestes. Une des raisons pour lesquelles Jésus nous a si clairement enseigné qu'il allait revenir bientôt, c'était pour nous aider justement à rester spirituellement alerte. Ça a un impact. Et ce sera mon deuxième point. Vivre une vie sainte. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Ce texte est extraordinaire. Il y en a plusieurs, hein, mais celui-ci, oh là là. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Écoutez le verset 3. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Waouh! Vous vous rendez compte? Le fait d'attendre le retour imminent de Jésus-Christ nous pousse à vivre dans la sainteté, dans la pureté. La vérité du retour de Jésus-Christ, en fait, nous aide à dire non au péché et à dire oui à la volonté de Dieu, à tout ce qu'il désire, à tout ce qu'il veut pour nous. Nous pourrions dire qu'une bonne attitude d'attente produit changement dans notre manière de vivre, dans notre conduite de tous les jours. Voici comment l'attente de Christ a eu un impact dans la vie d'une femme libérée du fardeau de trop de choses matérielles. Elle a écrit ceci. Il y a 3 ans, notre famille a déménagé 7 tonnes d'affaires dans notre maison. Ce déménagement m'a convaincu de me lancer dans le processus fastidieux d'évaluer ce dont nous avions réellement besoin et ce dont nous devions nous débarrasser. Trier, me séparer de tant de choses m'a aidé à réaliser une fois encore combien il est facile de s'encombrer de choses dans cette vie. Je veux me libérer de tout le superflu, de ce qui m'encombre et m'empêche de voir les choses importantes de la vie. Voici les choses importantes. Ma relation avec Dieu, ma famille, les autres. Je souhaite que rien ne me distrait des priorités essentielles, alors que j'attends avec impatience son retour. Voilà sa motivation. Très touchant, n'est-ce pas? Attendre Christ doit nous pousser à vivre dans la sainteté. Mais il ne faut pas mal comprendre. Certains font tout pour vivre une vie sainte par crainte que Jésus les attrape en train de faire quelque chose de mal alors qu'il revient, quoi. Ah non, il faut vraiment que je fasse attention, sinon, s'il revient, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une certaine crainte de Dieu, mais celle-ci n'est pas bonne. Notre motivation doit être l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Nous l'attendons, nous désirons le voir. Et nous sommes tous les jours en relation, dans cette intimité avec lui, et nous utilisons chaque seconde pour lui plaire. Et donc, s'il revient bientôt, ben justement, il faut qu'il revienne bientôt. Je l'attends, je suis là, je l'aime. Vous voyez l'attitude? Soyons dans cette attente. Préparons-nous comme avec une telle motivation, en l'aimant. Cela produira en nous fruits, des fruits de sainteté. J'avais posté cela sur Facebook. Plus nous pensons au retour de Christ, plus nous devenons des chrétiens solides et efficaces. Cette espérance nous aide à garder les yeux fixés sur le but. Troisièmement, attendre avec joie. Waouh, ça c'est important. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, il parle d'attendre que se réalise notre bienheureuse espérance. Bienheureuse espérance. Joie. Lorsque nous sommes environnés de circonstances positives, nous avons tendance à y placer notre espérance là, dans ces choses positives. C'est bon, tout va bien, donc j'ai la sécurité, j'ai tout, donc c'est bon, tout va bien, mais on ne met pas notre espérance en Dieu. C'est cela notre tendance. Et les circonstances difficiles peuvent ne pas nous aider non plus. Lorsque la maladie frappe, nous ne parvenons pas à voir au-delà de la douleur. Le chagrin gêne la vue lorsqu'un être cher meurt. La honte obscurcit notre vision lorsque nous perdons notre travail. L'inquiétude et le ressentiment entravent notre route lorsque nous prenons soin d'un parent âgé, par exemple. Et la solitude nous mène dans la confusion lorsque les fiançailles, par exemple, sont rompues. Quelles que soient les circonstances difficiles, ce n'est pas simple. Nous avons plus cette tendance à regarder les choses difficiles, à ce qui nous arrive, que regarder au-delà. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette vérité du retour de Jésus-Christ est généralement mise à la dernière place dans nos luttes quotidiennes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les circonstances sont tellement présentes devant nos yeux qu'elles nous empêchent de regarder vers l'espérance de notre futur. Si cette vérité du retour de Jésus ne nous aide pas à saisir fermement notre espérance, alors nous passons à côté de ce que Dieu veut nous montrer, veut nous donner, de l'essentiel. Cette vérité est destinée à nous plonger dans l'espérance. Nous sommes accablés par la souffrance physique ici-bas. Rappelons-nous que Jésus-Christ revient. Nous sommes bouleversés par l'injustice répandue ici-bas. Rappelons-nous que Christ revient. Notre cœur est brisé par la solitude. Rappelons-nous que Christ revient. Nous sommes en lutte avec un péché. C'est difficile. Nous voyons que notre vie, des circonstances sont difficiles. Rappelons-nous encore et encore que Christ revient. La question, mais comment saisir fermement cette espérance? Comment la venue de Jésus-Christ peut-elle devenir plus qu'une simple étude, par exemple, que nous allons entendre ce matin et puis ensuite oublier dans la semaine? Comment la vérité de la seconde venue de Jésus peut-elle faire une véritable différence dans notre vie, cette semaine, la semaine suivante et la semaine d'après? J'aimerais vous encourager à adopter l'attitude dont l'apôtre Jean a fait preuve envers Dieu alors que ce dernier lui révélait l'espérance de l'éternité. L'apôtre Jean a fait tout simplement une chose. Adorer Dieu. Adorons Dieu. C'est étrange. Nous avons cette tendance d'agir comme si nous ne pouvions pas nous réjouir du retour de Jésus tant qu'il n'est pas arrivé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'entends rarement les chrétiens faire cette prière, merci Jésus parce que tu reviens bientôt. Quelle joie de savoir qu'un jour nous te verrons face à face. Je suis en train de me reprendre moi-même. Et j'espère que vous entendez ce que je suis en train de dire là. Où sont nos louanges pour le retour de Christ? J'entends rarement cela. Et pourtant c'est cela qui devrait être dans nos prières. Que le Seigneur nous aide. Nous devrions nous réjouir maintenant. Si je peux me réjouir à l'avance de choses comme des vacances imminentes ou comme un bon poulet qui m'attend au four et que je vais déguster dans quelques minutes, je dois me réjouir. Je ne dois pas attendre. Réjouissons-nous maintenant. Nous pouvons nous réjouir de la venue de Jésus-Christ, de son retour dès à présent et avec un cœur impatient de le voir. Mon exhortation ce matin, que dans nos prières, nous commençons là, que dans nos prières, nous prenions le temps de nous réjouir du retour de Christ. Commençons là. S'il y a une chose à retenir, c'est cela. Réjouissons-nous sans cesse du retour de Christ. Que nos prières soient remplies, imprégnées de ce retour, pour que nos pensées le soient aussi. Il y a tellement de consolation et tellement à recevoir en se réjouissant de ce retour. Notre Père, nous nous tournons vers toi, celui avec qui nous passerons l'éternité à honorer de notre adoration. Nous reconnaissons devant toi ce que tu sais déjà. Nos problèmes semblent si pressants et notre espérance parfois si lointaine. C'est pourquoi nous nous focalisons sur nos problèmes plutôt que sur l'espérance. Pardon, Seigneur. Nous prions que cette vérité du retour de Christ apporte un nouveau sentiment d'espérance à notre vie. Nous prions que cette espérance nous donne d'avoir un esprit vigilant, une vie sainte et un cœur qui désire ardemment le jour où Jésus reviendra. Aide-nous à nous préparer pour ton glorieux retour. Nous nous attendons à toi. Amen. Jésus-Christ revient bientôt.